VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du lundi 13 juillet 2015, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. À la une ce matin.
Au lendemain de l'attentat meurtrier de samedi au Tchad, la société civile juge inadéquates les mesures prises par le gouvernement.
Et nous sommes certains que quand les policiers vont voir les femmes qui portent les robes noires, vont se jeter sur elles pour les arnaquer.
Et folle rumeur hier d'attaques terroristes contre des mosquées à Bamako au Mali.
Les chefs d'État de la zone euro ont mis sur la table un projet de compromis pour le maintien de la Grèce dans la zone euro.
Et concernant le dossier nucléaire iranien, les négociations marathon du week-end n'ont pas abouti.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Tout d'abord, le journal.
Au Tchad, le gouvernement a annoncé une série de mesures en réponse à l'attentat perpétré samedi à N'Djamena par la secte islamiste nigériane Boko Haram. Cette attaque au marché central de la capitale tchadienne a fait au moins 15 morts et 80 blessés. Les mesures prises par le premier ministre Kaldobé Païmi sont jugées inadéquates par la société civile. Écoutons deux zombies pas salés de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières.
Les mesures sont prises, mais la difficulté est dans la mise en œuvre. Et en plus, nous pensons qu'il risque d'avoir des débordements. Par exemple, le port de la robe noire, d'ailleurs, le gouvernement dit que ces camps, ça couvre complètement le village. Et nous sommes certains que quand les policiers vont voir les femmes qui portent les robes noires, vont se jeter sur elles pour les arnaquer. Voilà les difficultés. Donc nous craignons qu'il y ait un débordement par rapport à ce genre de mesures.
Quelles autres actions aimeriez-vous voir de la part du gouvernement?
Vous voyez, par exemple, le gros bus qui quitte avec des dizaines de passagers à bord en direction du sud, du nord et qui reviennent à destination de N'Djamena. Ces bus-là, par exemple, ne sont pas fouillés au départ. Ça pose un problème par rapport aux nouvelles mesures qui disent qu'il faut refaire les passeports, refaire la carte d'identité avec les nouvelles indications que le Premier ministre a données. Mais là, le gouvernement tchadien a joué avec le feu. Les gens qui viennent commettre des attentats, ils sont pour la plupart des étrangers, mais qui sont porteurs des pièces tchadiennes.
Voilà, c'était deux zombies pas salés de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières au micro de Chirubin Docile.
Des organisations de la société civile burkinabé ont dénoncé dimanche ce qu'elles appellent un coup d'État en cours contre les autorités intérimaires. Elles ont aussi réclamé la dissolution de la garde présidentielle engagée dans un bras de fer avec le Premier ministre Isaac Zida. Le président Michel Cafando a exhorté vendredi ses compatriotes à éviter que le pays ne sombre dans le chaos.
12 exploitants forestiers enlevés le 8 juillet par une bande armée en Casamance, région du sud du Sénégal, ont été libérés. C'est en tout cas ce que rapporte l'agence France Presse citant une source militaire. Ils ont été relâchés par leurs ravisseurs dans la forêt de Yassine, a précisé cette source militaire, assurant ne disposer d'aucune autre information sur les conditions de leur libération.
Le parti au pouvoir en Tanzanie a désigné dimanche John Magufuli, actuel ministre des Travaux publics, comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Âgé de 55 ans, John Magufuli a de fortes chances de succéder au président Jakaya Kikwete, qui achève cette année son second quinquennat et, fait rare dans la région, ne sera pas candidat à sa succession.
Donateurs et pays en développement se réunissent à partir de ce lundi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour tenter de nouer un accord délicat sur le financement du développement.
Réaction positive en Europe et à l'ONU suite à la signature samedi au Maroc d'un accord de paix entre les parties rivales en Libye. Cependant, la crise n'est pas encore réglée. L'un des deux groupes rivaux qui gouvernent le pays n'était même pas représenté à la cérémonie de signature. Jean-Roger Bion.
L'AFP l'a bien décrit, le chemin vers la réconciliation en Libye s'annonce encore long et difficile. Malgré tout, c'est un Bernardino Léon très optimiste qui s'est exprimé devant la presse à l'issue de la signature de cet accord à Skhirat au Maroc. Pour l'émissaire onusien, ces accords dessinent les institutions et les mécanismes de prise de décision jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. La porte reste ouverte pour ceux qui n'étaient pas présents, a ajouté l'ambassadeur Léon, précisant que les points de contentieux qui subsistent pourraient être discuté après la fin du Ramadan. Son patron Ban Ki-moon attend désormais avec impatience la conclusion rapide d'un accord complet, a indiqué son porte-parole hier dans un communiqué. L'Union européenne a également salué un pas important et s'est dite prête à soutenir un gouvernement d'union nationale dès lors qu'il sera formé. La Libye, depuis la chute de Kadhafi, est en proie à la violence et à la division. Actuellement, le pays compte deux gouvernements et deux parlements rivaux, dont un seul, celui qui a signé l'accord, est reconnu par la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs d'État de la zone euro qui bataillaient dimanche soir sur le maintien ou non de la Grèce dans l'euro ont rédigé un projet de compromis pour le maintien de la Grèce. Le projet a été mis sur la table par les dirigeants allemands, français, grecs et le président du Conseil européen et va être soumis donc aux dirigeants de toute la zone euro pour approbation, a indiqué ce lundi matin une source proche des discussions citée par l'AFP. Et dimanche, juste avant le sommet, les dirigeants européens avaient promis de tout faire pour parvenir à un accord, à l'instar du président français François Hollande.
L'enjeu, c'est savoir si la Grèce sera demain dans la zone euro. Mais l'enjeu, c'est l'Europe. C'est pas simplement de se déterminer sur la Grèce, bien sûr que c'est le sujet du jour, mais c'est de bien marquer ce qu'est la conception que nous avons de l'Europe, de nos intérêts, pas nos intérêts nationaux, de nos intérêts européens, ce que nous avons en commun. Donc la France va tout faire pour trouver un accord ce soir.
Autre dossier, celui du nucléaire iranien. Les négociations marathon du week-end n'ont pas abouti à un accord. Les parties se sont fixées un nouvel objectif, signer un document final d'ici la fin de cette journée du 13 juillet. Mais rien n'est plus certain chez Rubin Dorcil.
Quand les dates butoirs se multiplient au cours d'un processus comme les négociations du groupe 5+1 avec le gouvernement iranien, on a tendance à ne vouloir se fier qu'à la fin. Néanmoins, un certain optimisme se dégageait hier parmi les participants aux discussions de Vienne. En dépit de ce qu'un diplomate américain de haut rang appelle des questions difficiles qui restaient à régler, aucune annonce n'a été faite dimanche soir, mais les délégués américains et européens ont continué à travailler très tard. « Nous avons encore du pain sur la planche », avait lancé de son balcon plus tôt dans la soirée le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. Entre autres pierres d'achoppement, un embargo de l'ONU sur les armes que les puissances occidentales voudraient maintenir en vigueur. Il y a aussi le calendrier de la levée des sanctions et la durée de l'accord.
Le baron mexicain de la drogue Joaquim El Chapo Guzman est parvenu à s'échapper d'une prison de haute sécurité pour la deuxième fois en 14 ans en passant par un tunnel, Henri Francisca.
Guzman a été vu pour la dernière fois samedi soir dans sa cellule de la prison d'Altiplano, à 90 km à l'ouest de la capitale. Après avoir constaté grâce à la vidéosurveillance qu'il ne réapparaissait pas, les gardiens se sont rendus dans sa cellule et ont constaté sa disparition, rapporte l'AFP. Ils ont alors découvert sous sa douche un tunnel d'une largeur d'environ 50 cm et d'une longueur de plus de 1500 mètres, débouchant sur une demeure en construction au milieu des champs. Le tunnel était équipé d'un système de ventilation et une moto installée sur des rails servait à extraire la terre et acheminer du matériel. Des recherches ont été lancées dans la zone pour le retrouver, ainsi que sur les routes des États limitrophes. Les vols depuis l'aéroport voisin de Toluca ont été suspendus. El Chapo, diminutif de Chaparro, Curto, allusion à sa taille d'1,64 m, s'était déjà évadé d'une prison de haute sécurité en 2001, caché dans un panier à linge sale.
À signaler enfin que le pape François a regagné hier soir le Vatican en provenance du Paraguay après une visite d'une semaine en Amérique du Sud. Cette première visite du souverain pontife en Amérique du Sud renforce son statut de porte-parole des déshérités du monde, notamment après qu'il se soit rendu hier dans un bidonville régulièrement victime de graves inondations.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
La Mauritanie et l'Union européenne ont signé un nouvel accord de pêche d'une durée de 4 ans, rapporte l'AFP. La Mauritanie aura une compensation de 100 millions d'euros contre 110 auparavant, mais l'autorisation annuelle de pêche passe de 300 000 à 225 000 tonnes. Les autres termes de l'ancien accord restent inchangés, tels que la pêche exclusive du poulpe et de la sardinelle par les pêcheurs nationaux et le quota de marins mauritaniens sur les bateaux européens fixé à 60%. L'État congolais doit près de 78 millions de dollars à la Régie des eaux, l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable. Une révélation faite par le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la Régie des eaux lors d'une présentation sur la réforme de la régie. Notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM, a tendu le micro à Jean Bosco Mouaka.
En dehors de l'État, il y a également les entités décentralisées, notamment les communes, les mairies, les gouvernorats qui ne payent pas également les consommations d'eau. Alors il faut que tout le monde paye. Il y a également certaines autorités qui estiment qu'ils ont été omises sur la liste des ayants droit et qui se comportent comme ayants droit qui ne payent pas également.
Au cours de la journée du 23 juin en Allemagne, plus de 180 000 élèves ont été dispensés des cours pour travailler contre rémunération afin de soutenir des Africains de leur âge, rapporté News Press. Leur salaire a été reversé à l'association Action Tagwerk, à l'origine de l'initiative annuelle. 1,3 million d'euros de recettes permettront notamment de construire des écoles au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Ghana, en Ouganda et en Afrique du Sud.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports et on retrouve Élisée Mpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Bagassi.
Ce matin, on commence par du cyclisme. D'abord, un mot de Tour de France. Le contre-la-montre par équipe de ce dimanche à Ploumélec s'est soldé par la victoire de la formation BMC devant la Sky du Britannique Chris Froome, toujours en maillot jaune, avant la montagne. On reste en cyclisme, cette fois-ci le Tour du Bénin. Édition 2015.
Ce tour, qui sera à sa 12e édition, démarre ce lundi à Djougou avec un critérium. Une semaine de pédale donc pour les cyclistes venus du Togo, du Burkina Faso, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de la France et du Bénin. Le tout en 6 étapes et qui prendra fin le 19 juillet prochain à Cotonou. Francis Ducreux est le promoteur de ce tour.
Le Tour du Bénin était un très grand tour il y a quelques années et je crois qu'il n'a rien à envier aux autres tours de la sous-région où je suis impliqué. Le Tour du Bénin va retrouver sa place internationale.
En football, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des clubs et en Ligue des champions, le TP Mazembe accroché une nouvelle fois.
Effectivement, Bagassi, après avoir été contraint au partage des points lors de la première journée à domicile par Al Hilal, le club de Lumumbashi n'a mieux trouvé qu'un nul blanc de son déplacement à Tétouan contre le Maghreb. Les Soudanais d'Al Hilal, vainqueurs des Égyptiens de Smoura 2-0, sont en tête de ce groupe A.
Et dans le groupe B à fort accent algérien, c'est l'USM Alger qui domine les débats.
Le Mouloudia qui a pris seul la tête de ce groupe grâce à son succès 1-0 face au Soudanais d'El Merriek, but inscrit par Youssef Belhaimi de son côté. L'entente de Sétif s'est relancée. Le tenant du titre s'est imposé sur la pelouse de MC El Ulma 1-0. Sétif compte donc 3 points avec El Merriek derrière USM Alger, leader avec 6 points, et le MC Ulma qui ferme la marche avec 0 pointé.
En Coupe CAF, match nul 0-0 entre le Stade malien et le National du Caire.
Oui, Bagassi, le club de Bamako qui avait été battu de justesse lors de la première journée n'a pas cédé cette fois face à Al Ahly. Un match nul 0-0 qui ne fait pas vraiment les affaires des Maliens au classement qui sont troisième, mais devant l'Espérance de Tunis qui a concédé sa deuxième défaite consécutive. Battu cette fois à domicile 1-0 par l'Étoile du Sahel dans un duel 100% tunisien. L'Étoile du Sahel est toujours leader de ce groupe A avec 6 points devant Al Ahly du Caire. Et puis dans le groupe B, Zamalek semble avoir pris une belle option sur les demi-finales en réalisant la bonne opération du week-end avec ce succès de 2-1 en Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Avec cette deuxième victoire en deux matchs, le Zamalek est donc seul en tête du groupe B puisque dans l'autre match du groupe, le CS Fassien et les Léopards de Dolizy n'ont pas pu se départager. Score final, 1-0.
Et pour terminer, Élisée, tennis avec le tournoi de Wimbledon qui a rendu son verdict.
Chez les hommes, c'est le Serbe Novak Djokovic qui l'emporte en 4-7. Le numéro 1 mondial a battu en finale le Suisse Roger Federer 7-6, 6-7, 6-4 et 6-3. Djokovic qui remporte ainsi son troisième Wimbledon en carrière et son 9e tournoi de Grand Chelem. Chez les dames, c'est Serena Williams qui a battu l'Espagnole Gabi Muguruza en finale. L'Américaine s'est imposée en 2-7. 6-4, 6-4 et se rapproche du record de Steffi Graf au nombre de titres décrochés en Grand Chelem.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, de nouveau avec vous, Bagassé Koura. Place maintenant au dossier du jour. Folle rumeur d'attaque terroriste hier contre des mosquées à Bamako au Mali. L'information est partie après que la MINUSMA, la force des Nations Unies au Mali, a alerté certaines ambassades pour qu'elles prennent des mesures de sécurité. Suite à ces informations, les autorités maliennes ont elles aussi pris des dispositions sécuritaires à Bamako et dans ses alentours. Les patrouilles de nuit ont été renforcées et Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Possible menace d'attaque à Bamako. Stop. Tous les staffs de Bamako travaillent à la maison demain, sauf ceux qui seront contactés par téléphone. Écoute radio pour tous. C'est le message que la MINUSMA a envoyé à ses travailleurs et collaborateurs dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 juillet passé.
La journée de vendredi a été mouvementée, soit disant que Bamako est sous la menace d'attentat terroriste. Je crois que cette menace doit être prise au sérieux par les autorités.
Et les autorités et la population doivent prendre cette menace là au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ça? Ça, c'est le travail des autorités, mais aussi la population. Il faut que la population soit sereine.
Dans la même nuit, un dispositif sécuritaire d'envergure a été déployé à travers la ville de Bamako et ses environs. Pour certains, cela ne suffit pas.
Le mieux serait de faire et la nuit et la journée les patrouilles. Ces patrouilles doivent se faire avec aussi la complicité des populations. À partant de là, je pense qu'on pourrait maîtriser la situation. Il y a trop de portes d'entrée à Bamako. On peut entrer de Bamako partout. Ce n'est pas Bamako seulement, c'est partout dans les grandes villes du Mali et les portes d'entrée sont partout.
Les Maliens souhaitent aujourd'hui une dotation en moyens adéquats des forces de sécurité, car il s'agira de faire face à une situation asymétrique.
En ce qui concerne la population, je pense qu'elle doit comprendre qu'il va de sa sécurité, de dénoncer tout homme suspect et de coopérer toujours avec les forces de sécurité. C'est à ce prix, je pense personnellement, que nous pourrons contrecarrer ce phénomène qui menace non seulement Bamako, mais plusieurs capitale africaine.
Déjà, le premier ministre malien a fait une réunion avec la hiérarchie militaire et sécuritaire du pays. Plusieurs questions ont été abordées. Comme nous l'explique ici le ministre malien de la communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Maïga.
L'objectif étant d'évaluer cette situation, d'identifier les menaces, leur nature et les mesures prises ou à prendre par le gouvernement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a réitéré la confiance totale des hautes autorités de notre pays à nos forces armées et de sécurité. Il a ensuite insisté dans ses conclusions sur la nécessité pour nos populations de collaborer étroitement en tout temps, en tout lieu, avec les forces armées de sécurité.
La force spéciale de la DGC malienne a arrêté un homme en provenance des régions nord du Mali. Il est de terre noire et avait des vidéos, des documents et supports sur le djihadisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le CDP a investi ce week-end son candidat pour les présidentielles d'octobre. Eddy Kombouégo est la première personne, donc autre que Blaise Compaoré, à porter les couleurs de l'ancien parti au pouvoir. Zoumana Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
Pour la première fois de son histoire, le CDP, l'ex-majorité au Burkina, a investi Eddy Kombouégo, un candidat autre que Blaise Compaoré pour la présidentielle. Mais cette investiture est venue au moment où un grave danger plane sur le Faso, selon les mots même du président de la transition, Michel Kafando.
J'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Tous ont reconnu le péril que courait le pays si rien n'était fait dans les meilleurs délais pour calmer la tension. Et là, je suis au regret de le reconnaître. Tous ces contacts ne m'ont pas donné la certitude que les différents protagonistes étaient prêts à accepter ce compromis dynamique qui puisse amener à l'apaisement social. Une chose est claire, j'aurai tout fait pour que la paix soit préservée dans notre pays. J'appelle toutes les personnes responsables et de bonne volonté à en faire autant. Si malgré cet appel pressant, il se trouvait des aventuriers mus par les forces du mal pour créer des troubles et le chaos, ils en répondront devant l'histoire et évidemment devant les juridictions internationales.
Faisant suite à l'appel lancé par le président de la transition, le candidat investi par le CDP a d'abord invoqué Dieu avant de s'exprimer sur sa candidature. Sivon Edi Komboyego.
Il a demandé à ce que les uns et les autres puissent travailler à ce qu'il y ait une cohésion, une entente. Nous avons prié dans le même sens pour que les Burkinabés s'entendent afin que nous puissions sauver la transition et aller à des élections apaisées.
Je sais que c'est des défis qui me sont donnés, mais je ne saurais relever le défi seul. Nous allons travailler encore pour que le peuple burkinabé se rende à l'évidence que le CDP, c'est un parti de paix, c'est un parti de un bâtisseur, un parti qui veut le développement de notre patrie, de notre nation, et surtout de vivre en cohésion avec le pardon des uns et des autres, et que l'on puisse construire ensemble un Burkina face aux davantages émergents.
L'investiture du candidat du CDP est la première étape de la course à la présidence. Passera-t-il les mailles du filet du nouveau code électoral qui rend inéligibles ceux qui ont soutenu la modification de la Constitution au temps de Blaise Compaoré? La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
On reste toujours en Afrique de l'Ouest. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme n'a plus de représentation au Togo. Le bureau dans ce pays a été fermé le 30 juin. Ce départ du HCDH va mettre donc le gouvernement togolais devant ses responsabilités, estiment certaines organisations de la société civile. D'autres, par contre, craignent la recrudescence des actes de violence des droits de l'homme dans le pays. Reportage à Lomé de Kayi Lawson.
Depuis une dizaine de jours, le bureau Togo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a fermé ses portes. Après près de 9 ans de présence au Togo à la suite des violences électorales de 2005, qui ont fait plus de 400 morts selon le rapport de l'ONU, la représentation du HCDH Togo a mis la clé sous la porte le 30 juin dernier dans son contexte évolutif des droits de l'homme. Ola Tokumbo Ige était la représentante résidente du HCDH au Togo.
La situation des droits de l'homme au Togo évolue. Une évolution n'est pas dit que tout est parfait, mais c'est un indicateur. À notre arrivée ici, la situation a été plus difficile qu'aujourd'hui. Donc pour nous, cette évolution est à consolider. C'est quelque chose qu'on a besoin de développer pour rassurer tous les Togolais que le Togo est en bonne voie.
Le Haut Commissariat des droits de l'homme a œuvré pour l'instauration de l'état de droit et de la démocratie, reconnaissent les organisations de la société civile togolaise. Mais leur inquiétude réside au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui devrait prendre la relève. Spero Maoulé, président du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo.
Si c'est la CNDH telle que composée actuellement, je crains que nous n'avancions pas du tout. Peut-être même que nous allons reculer. Quand on voit même parfois le comportement de certains membres de la CNDH dans leurs tâches, ce ne serait pas une bonne chose pour nous. Mais en principe, il y a un engagement qui devait être pris pour que la composition même, le cahier de charge même de la CNDH soit changé, soit modifié complètement avec l'arrimage du mécanisme de prévention contre la torture qui doit être ajoutée. Donc il faut recomposer la CNDH, mettre là-bas des gens qui sont vraiment dévoués à la cause des droits de l'homme. Dans ce cas-là uniquement, on peut penser que ça va avancer.
Pour vraiment juger la situation réelle de l'évolution des droits de l'homme au Togo, le départ du HCDH devient indispensable, analyse Paul Amegampo, directeur exécutif de la Concertation nationale de la société civile.
HCDH a accompli sa mission et pour moi c'était même nécessaire qu'HCDH
partent. Parce que HCDH devient alors comme l'arbre qui cachait la forêt, puisque les choses ne changeaient pas. Le HCDH a été le moteur pour les travaux de la CVJR. Et la CVJR, c'est pour corriger toutes les violations des droits de l'homme et faire en sorte que ces cas ne se reproduisent plus. Mais depuis que les recommandations de la CVJR étaient sur la table depuis 2012, nous avons comme l'impression que rien n'a bougé. Aucune victime n'a été indemnisée. Aucune mesure pour prévenir ces actes-là à l'avenir. Et donc, à notre avis, HCDH ne peut plus faire mieux.
À la veille de la fermeture de son bureau, le HCDH a insisté sur deux mesures qui lui tenaient particulièrement à cœur. Nous retrouvons Ola Tokumbo Igé.
Le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l'homme et aussi l'adoption du code pénal, qui est déjà en bonne voie, vont être au moins deux démarches très importantes pour que le Togo continuer à améliorer la situation des droits de l'homme.
Même avec la fermeture du bureau du HCDH au Togo, Ola Tokumbo Igé ne quitte pas le pays. Elle vient de prendre les rênes du Centre des Nations Unies pour le désarmement en Afrique, UNREC, basé dans la capitale togolaise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Gabon, la zone économique spéciale de Nkok, à environ 30 km à l'est de Libreville, la capitale, est le symbole de la diversification de l'économie nationale, gérée à la fois par l'État gabonais et l'entreprise singapourienne Olam. Le projet ne semble pas se développer au rythme escompté 5 ans après son démarrage. Notre correspondant au Gabon, Jean-Rovi Dabani, s'est rendu sur ce site aux portes de Libreville.
À 27 km de Libreville, la première zone économique spéciale du Gabon. C'est ici que palpite le cœur du gouvernement. Pour attirer les entreprises étrangères, le Gabon a mis en place une batterie d'incitations fiscales. Jenny Mbou, la responsable communication d'un coq, je le guide.
10 ans d'exonération sur l'impôt sur le revenu des sociétés, puis un taux préférentiel de 10% sur les 5 prochaines années. Pas de droit de douane pour l'importation des matériaux, pas de TVA et... Aussi, on a prévu le guichet unique pour avoir un seul endroit pour pouvoir traiter les besoins administratifs des industriels.
Le site est destiné à accueillir des usines de transformation, notamment du bois. Sur place, il est pourtant difficile de se projeter dans la vie de demain vantée par les autorités. Coq a des allures de chantier, entrepôt en construction, terrain vide. 12 industries seulement sont sur la zone. Trop peu pour rentabiliser l'investissement initial de 240 milliards de francs CFA. Alain-Claude Bilébinzé est le porte-parole de la présidence de la République.
Là où les zones économiques de cette nature ont essayé de se mettre en place, c'est entre 10 et 15 ans de maturité. Nous sommes à 4 ans. Je pensais que vous me diriez, oui, en effet, c'était la brosse ici. Et que certains journaux avaient titré que Ali Bongo inaugure la latérite. Et que là, vous arrivez 4 ans après, toute l'infrastructure est en place. L'énergie, l'eau, tout est en place pour fonctionner.
Alors que le projet devait créer 3000 emplois en 5 ans, seules 900 personnes travaillent en coq. Ce qui renforce les opposants au projet dans leur conviction comme Adrien Adiaino, membre des Indignés, un mouvement de la société civile gabonaise.
Ce projet-là a été l'objet d'une pose de pierre qui avait tout d'une inauguration. Et jusqu'à présent, par rapport aux plans qui m'ont été donnés de voir, rien n'est fait. Les 3000 emplois sont toujours attendus. Nous en sommes toujours là, c'est de la pure mystification, des effets d'annonce.
Pourtant, les autorités restent optimistes. Pour elles, une centaine d'industriels étrangers ont confirmé leur installation en coq. Dans la pratique, ces entreprises seront exonérées des charges fiscales sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant 10 ans. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I see
Voilà le monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Et bien c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagassi Koura à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.